Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 8 de la Sainte Sourate Tin. Nous vous en présenterons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين
والتين والزيتون وطور سينين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم
ثم رددناه أسفل سافلين
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم.
Par la figue et par l'olive et par le mont Sinin et par cette cité sûre très certainement nous avons créé l'homme en la plus belle stature. Ensuite, nous l'avons renvoyé au plus bas des bas, sauf ceux qui croient et font œuvre bonne, car à eux un salaire jamais interrompu. Après cela, qu'est-ce qui te fait traiter de mensonge la rétribution? Dieu n'est-il pas le plus grand juge des juges?
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce mercredi 31 août 2022. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique. L'Occident, un refuge sûr pour les terroristes. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal, l'Iran pour un Irak stable, sûr et puissant. Le chef de la diplomatie iranienne, Hossein Amir Abdollahian, à Moscou, pour aider à trouver une solution à la crise en Ukraine. Et puis, la 5e conférence internationale pour la solidarité avec les enfants palestiniens, prévue en septembre à Téhéran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le ministre iranien des Affaires étrangères, réagissant aux récentes évolutions en Irak, a souligné dans une déclaration que Téhéran considère que la seule solution pour la sortie de l'Irak de la crise actuelle consiste à recourir à des approches fondées sur le dialogue, à préserver les droits des citoyens et à adhérer à la Constitution et au processus politique. Et que Téhéran a toujours voulu un Irak stable, sûr et puissant. Selon la déclaration publiée par le ministère iranien des Affaires étrangères, la République islamique d'Iran, exprimant sa satisfaction du retour de la paix en Irak et ses condoléances pour les morts, en souhaitant la santé aux blessés provoqués lors des incidents récents, apprécie la patience et la sagesse du gouvernement et du peuple irakien et de toutes les institutions juridiques du pays à vaincre une grande sédition. La République islamique considère que la seule solution pour la sortie d'Irak de la crise actuelle consiste à recourir à des approches fondées sur le dialogue, à préserver les droits des citoyens et à adhérer à la Constitution et au processus politique. La République islamique d'Iran espère que tous les groupes et courants politiques irakiens fourniront le terrain propice à la formation d'un nouveau gouvernement avec leurs responsabilités et leur participation constructive au processus politique. La République islamique d'Iran veut toujours un Irak stable, sûr et puissant qui joue un rôle constructif dans les évolutions régionales. La République islamique d'Iran n'a jamais refusé son appui aux processus et institutions politiques et juridiques irakiens. La République islamique d'Iran demande à tous les courants politiques, aux personnalités et à ceux qui s'intéressent à un Irak fort et indépendant de respecter les droits et les exigences de chacun dans un processus pacifique et axé sur le dialogue avec une responsabilité politique et sociale, a conclu le ministère dans sa déclaration. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, se trouve à Moscou pour une série d'entretiens diplomatiques avec des responsables russes. Il y a peu, Amir Abdollahian a tenu une réunion avec son homologue russe, Sergei Lavrov. Le chef de la diplomatie iranienne a déclaré que l'objectif principal de sa visite en Russie était d'aider à trouver une solution à la crise ukrainienne sur la base d'une demande faite à la République islamique. Les relations bilatérales ainsi que les derniers développements en Afghanistan sont également au cœur des discussions. Selon les rapports, au menu de la rencontre entre les ministres iraniens et russes des Affaires étrangères figurent également d'autres questions internationales, y compris les évolutions liées à l'accord multilatéral sur le nucléaire iranien de 2015, la levée des sanctions, le Caucase et la mer Caspienne. Selon le ministère russe des Affaires étrangères, sur la base des plans, les questions principalement commerciales et économiques seront discutées dans le cadre de la mise en œuvre des projets communs clés dans les domaines de l'énergie et des transports, ainsi que les perspectives d'établissements scientifiques, techniques, culturels et les relations humanitaires. Il s'agit du troisième déplacement d'Amir Abdollahian en Russie en tant que ministre iranien des Affaires étrangères. La défense des droits du peuple palestinien est la boussole de la justice et de la stabilité de l'ordre mondial. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères a considéré la Palestine comme la boussole de la stabilité et de la justice de l'ordre mondial et a déclaré: tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas pleinement respectés, la réalisation de la sécurité et de la justice ne sera rien de plus qu'un mirage. Selon l'IRNA, Ali Boreri, lors d'une réunion avec le président du groupe d'amitié parlementaire nigérian, Talito Asansi a condamné l'approche conflictuelle du régime américain contre la nation iranienne au cours des quatre dernières décennies et a déclaré: malgré toutes ces pressions, le mouvement progressiste de la nation iranienne au cours des quatre dernières décennies, même pour un instant, n'a pas vécu de pause ni d'interruption et l'Iran a présenté un nouveau style de vie nationale, régionale et internationale qui, en plus de s'opposer à la coercition et à la pression, a affiché progrès national, coopération régionale et activisme international à un niveau nouveau. L'adjoint politique du ministère iranien des Affaires étrangères considère la Palestine comme la boussole de la stabilité et de la justice au centre de l'ordre mondial et a déclaré: tant que les droits du peuple palestinien ne seront pas pleinement respectés, la réalisation de la sécurité et de la justice ne sera rien de plus qu'un mirage. La 5e conférence internationale pour la solidarité avec les enfants palestiniens prévue en septembre. La 5e conférence internationale de solidarité avec les enfants et adolescents palestiniens se tiendra à Téhéran le 30 septembre. Le chef du comité de publicité et d'information de la Conférence internationale de la solidarité avec les enfants palestiniens, Iraj Seprati, a déclaré le mardi 30 août aux journalistes de l'IRNA, Dixit, « Ce rendez-vous vise à soutenir les enfants et les adolescents palestiniens et coïncide avec l'anniversaire de la mort en martyr de l'adolescent palestinien, Mohammad al-Doura, avec la présence de plus de 40 personnalités et invités étrangers des pays islamiques et occidentaux et un certain nombre d'officiels et de personnalités iraniens. » Concernant le menu de cette conférence, Iraj Seprati a également déclaré que l'événement politico-humanitaire se focalise sur divers axes, à savoir la résistance face à l'occupation, l'apartheid du régime sioniste et le boycott d'Israël. Des personnalités juridiques internationales et nationales présenteront leurs vues et solutions face aux politiques destructives menées par le régime de Tel Aviv. Cette conférence se tient à l'initiative de l'Union internationale des jeunes et des adolescents anti-occupation et avec la coopération de l'Association de la défense du peuple palestinien, qui est une organisation non gouvernementale. Amir Abdollahian reçoit la visite d'adieu de l'ambassadeur de France à Téhéran, Philippe Thiébaut. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a reçu mardi à Téhéran l'ambassadeur de France, M. Philippe Thiébaut, qui lui a rendu une visite d'adieu au terme de sa mission en Iran. Philippe Thiébaut a fait ses adieux après plus de 3 ans de mission diplomatique à Téhéran. Enfin, secteur automobile, la levée des sanctions fournira de nouvelles opportunités de coopération irano-japonaise. Selon le rapport de l'IRNA, depuis le constructeur d'automobiles iranien de Saipa, l'ambassadeur de Japon en poste à Téhéran a ajouté le mardi 30 août, compte tenu des très bonnes relations que les constructeurs automobiles japonais entretiennent avec leurs homologues iraniens, une fois les sanctions levées, de nouvelles opportunités pour ces coopérations se présenteront. Concernant sa visite à l'exposition sur la transformation de l'industrie automobile, le diplomate a déclaré « Lors de ma visite dans ce salon, j'ai pris connaissance des développements sur le marché iranien, en particulier les développements qui ont eu lieu dans l'industrie automobile du pays et les nouvelles voitures et camionnettes électriques qui ont été lancées. Les efforts déployés dans ce domaine sont louables », a dit le diplomate, avant de qualifier le marché iranien d'immense. Fin de ce journal, merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique reste avec nous. Merci. L'Occident, un refuge sûr pour les terroristes. Soutenir le groupe terroriste des hypocrites, Monaferine, qui a versé le sang des milliers d'innocents en Iran et le mettre à l'abri par certains gouvernements européens, est un exemple des réactions de soutien de certains pays au terrorisme, selon la déclaration publiée par le Bureau des Affaires internationales du pouvoir judiciaire, le secrétariat du Centre des droits de l'homme de la République islamique d'Iran, à l'occasion de la journée de lutte contre le terrorisme. Le sinistre phénomène du terrorisme et son utilisation instrumentale par certains pays font chaque jour la mort d'innocents dans un coin du monde, selon la déclaration publiée par le Bureau des Affaires internationales du pouvoir judiciaire et le secrétariat du Centre des droits de l'homme de la République islamique d'Iran à l'occasion de la journée de lutte contre le terrorisme. Soutenir le groupe terroriste et hypocrite qui a versé le sang des milliers d'innocents en Iran et le mettre à l'abri par certains gouvernements européens, la passivité et le silence complices face aux assassinats continus et systématiques de scientifiques iraniens ne sont que des exemples des réactions de soutien de certains pays envers le terrorisme. Dans une partie de cette déclaration, soulignant que la République islamique d'Iran est la principale victime du terrorisme dans le monde, on peut lire « L'assassinat de plus de 17 000 personnes innocentes au cours des 4 dernières décennies, l'assassinat de scientifiques iraniens, en particulier l'assassinat criminel du plus grand défenseur des droits des nations de la région, le lieutenant-général Rossem Soleimani », après quoi nous voyons la croissance de violence et d'extrémisme dans la région font partie des nombreux exemples de terrorisme en Iran. Aujourd'hui, les pays occidentaux et les États-Unis sont devenus un refuge pour les groupes terroristes et ils leur apportent un soutien politique, sécuritaire, de renseignement, technique, financier et médiatique.
Thank you. Mesdames et messieurs, bonjour et merci d'être avec nous pour une nouvelle édition de débat. Nous sommes le samedi 27 août et en direct depuis la capitale iranienne, Téhéran. Dans cette édition de débat, nous allons évoquer la visite d'Emmanuel Macron, le président français, en Algérie. Alors que le président français et les médias français prétendent que cette visite est dans le cadre de l'amélioration des relations entre la France et l'Algérie, mais également des échanges économiques en ce qui concerne le domaine du gaz et du pétrole algérien, il semblerait que cette visite n'est pas sans lien avec ce qui se passe en ce moment au Sahel, notamment au Mali, où la France, ses forces Barkhane ont été expulsées, les accords militaires ont été rompus et le Mali cherche même à faire traîner la France devant la justice internationale, à savoir avoir une réunion d'urgence du Conseil de sécurité. Alors cette visite, est-ce que cette visite serait dans la... visite en fait dans la ligne du fait que Macron voudrait nouer des liens avec l'Algérie afin de faire compenser ce qui s'est passé au Mali. La réponse dans quelques instants avec nos deux invités, mais avant de vous les présenter, je vous propose de regarder un reportage préparé par mes collègues. On revient tout de suite après.
Emmanuel Macron est arrivé jeudi 25 août en Algérie. Lors d'une première prise de parole, le chef de l'État a annoncé la création d'une commission d'historiens français et algériens sur la colonisation et la guerre d'Algérie. Que pensent les Algériens de ce déplacement du chef de l'État français et qu'en attend-il? La France n'est pas le premier pays ces derniers mois à tenter d'obtenir plus de gaz de son partenaire algérien. Mario Draghi est venu signer en juillet un nouveau contrat de 4 milliards de mètres cubes de gaz supplémentaire pour l'Italie alors qu'il était plongé dans une crise politique qui allait faire tomber son gouvernement. En octobre 2021, des propos d'Emmanuel Macron reprochant au système politico-militaire algérien de surfaire sur la rente mémorielle et ses interrogations sur l'existence d'une nation algérienne avant la colonisation ont fini de consommer la rupture. Dans les rues d'Alger, le président français est attendu cette fois avec circonspection. En 2017, avant qu'il ne soit président, il a bien parlé. Il a fait sa visite, mais juste après son retour en France, il a changé. Il a tenu un autre discours, des pleurs ottomanes. Abdellouch, 62 ans, docteur en informatique. Macron, on lui dit « Bienvenue en Algérie, si les intérêts sont communs, nous sommes d'accord. S'ils ne sont que du côté français, alors c'est non, renchérit Ramdan Elbaz, 60 ans, un retraité. »
Alors, nous sommes de retour sur le plateau de Presse TV français. Nous avons deux invités en direct avec nous, Bernard Cornu, politologue depuis Vaucluse, la France, et Luc Michel, géopoliticien qui est avec nous depuis Bruxelles. Monsieur Cornu, je commence avec vous si vous voulez bien. Bonjour et bienvenue sur le débat du jour. Alors, à votre avis, quels sont les réels objectifs de cette visite de Macron en Algérie? On sait bien, les relations entre les deux pays se sont dégradées il y a quelques mois après les propos interventionnistes d'Emmanuel Macron. Alors, quels seraient pour Macron les réels objectifs de cette visite?
L'objectif principal est certainement d'améliorer, de restaurer la relation qui s'était dégradée à partir de alors entre eux. Parce que cette relation est essentielle vu l'importance de la communauté algérienne ou des descendants d'Algérie, vu le maintien encore de difficultés pour reconnaître l'ensemble des faits sur la colonisation et sur la guerre d'Algérie, sur ce qu'on appelait les événements qui sont terminés en 1962. Donc il y a beaucoup de contentieux à régler par des échanges peut-être plus approfondis. Un autre objectif était certainement lié à cette amélioration des relations, pouvoir avoir le droit de survol des avions militaires français qui continuent leurs opérations militaires, mais non plus à partir de Mali et à partir d'autres bases, au Niger principalement. Et puis aussi de tâcher d'avoir une discussion approfondie sur les raisons profondes du développement de mafias terroristes dans ces territoires du Sahel, qui pour moi sont principalement liés aux différences de coûts des carburants entre l'Algérie, voire la Libye et le Soudan, qui ont des prix très bas, lors de 17 centimes d'euros ou de dollars, et les prix au Sahel, qui sont beaucoup plus élevés, lors de 1,10€, 1,20€, 1,30€, et alors que les carburants sont essentiels dans cette région où il y a beaucoup de véhicules tout-terrain, où les distances entre les endroits sont longues et les terrains difficiles. Et donc, pour l'économie locale, les carburants sont essentiels. Donc, le fait qu'ils soient très chers au Sahel et peu chers sur les pays côtiers, Algérie et Soudan, Libye, fait qu'il y a de la contrebande, et ceci depuis très longtemps. Ces contrebandes, des mafias, de la corruption, et il est, à mon avis, il faut discuter de ceci pour avoir une convergence des tarifs et diminuer la contrebande, donc diminuer les mafias qui sont, à mon avis, des nourrices du djihadisme, du terrorisme dans cette région.
Merci pour vos explications. Restez avec nous, Monsieur Cornu. Alors, Monsieur Michel, vous venez d'entendre les explications de Monsieur Cornu. D'un autre côté, il y a le sujet du Mali. La France, Barkhane, est désespérée, désemparée au Mali, expulsée du Mali. Une première peut-être dans toute l'histoire de l'Afrique où elle a subi une histoire colonialisme par la France, mais aussi des autres pays occidentaux. Donc, à votre avis, est-ce que dans ce cadre, le seul objectif de Macron pourrait être seulement de renouer des liens avec l'Algérie ?
Bonjour à vous, bonjour à mon collègue et à nos téléspectateurs. Je ne partage pas du tout cette opinion. Ce n'est absolument pas la relation bilatérale avec l'Algérie qui est en cause. Macron démontre une fois de plus qu'il est le roi du rouble discours. Ce qui est en cause, c'est le dossier malien, comme le montre la présence du chef d'état-major français dans l'agrégation, le général Burkhardt, et de l'autre, c'est le dossier ukrainien, celui du gaz, comme le démontre la présidente du conseil d'administration de Engie, Excellence Rabel, la multinationale française de l'électricité. Mais en réalité, la visite de Macron, c'est surtout un piège pour les Algériens. Les Algériens sont placés au pied du mur. Soit ils restent fidèles à l'axe Alger-Moscou-Bamako, c'est-à-dire à l'alliance géopolitique anti-française, soit ils veulent faire des accords et des affaires avec les Français comme ils en ont fait avec les Italiens. Et dans ce cas, ils ont tout à perdre sur le long terme dedans.
Merci pour vos explications. Restez avec nous, restez en ligne. Monsieur Cornu, en ce qui concerne la question de l'énergie, on sait bien que l'Europe est en manque de gaz et de pétrole, surtout suite à cette crise russo-ukrainienne. Est-ce qu'Emmanuel Macron serait en quête du gaz et du pétrole algérien après ce qui s'est passé alors entre la Russie et l'Ukraine?
Bien sûr, il peut y avoir des accords pour augmenter un peu les livraisons, mais de toute façon, les livraisons de gaz algérien sont marginales dans le mix énergétique français. L'Italie a pris les devants. Il y a un contentieux entre l'Algérie et l'Espagne pour le transit du gaz, lié à la position politique de l'Espagne vis-à-vis du territoire du Sahara occidental, que revendique le Maroc et qui fait l'objet aussi d'un soutien de l'Algérie au mouvement, disons, autonomiste du Sahara espagnol. Voilà, donc, mais ce problème du gaz, à mon avis, est marginal. Je pense encore qu'une fois que le problème des tarifs des énergies, avec les taxes très faibles, et même des subventions finalement en Algérie pour le gaz, nécessite une coopération renouvelée sur les plans techniques, sur les plans politiques avec l'Algérie pour mettre fin à ces différences de tarifs qui sont une cause de contrebande et donc de corruption et de développement de mafias multiformes dans cette région entre les pays de la côte méditerranéenne sud et les pays du Sahel où les carburants sont un outil essentiel pour les vies économiques locales. Donc, la délégation est très importante. Il y a une centaine de personnes. Il y a même des députés de l'opposition Il y a la ministre chargée de la culture qui est d'origine libanaise. On la voit tout près du président. Il y a des visites peut-être marginales, mais à Oran sur le disco. Il y a un hommage quand même aux Européens qui sont morts en Algérie pendant ces événements de la guerre. Donc la situation de la relation est complexe. Et je ne pense pas que le sujet militaire soit le seul. Je crois que les transformations sociales de l'économie algérienne sont certainement au menu, mais ce n'est pas sûr que pour le respect de la souveraineté algérienne, que cette discussion soit évoquée publiquement.
Merci pour vos explications, Monsieur Michel. En ce qui concerne ce qui se passe en ce moment au Mali, il semblerait qu'il y ait une guerre anticolonialiste qui a commencé au Mali, mais qui s'étend vers les autres pays de l'Afrique et aussi du Sahel. Est-ce que l'Algérie serait la clé pour la France de cette guerre, pour l'avoir dans son camp? Et est-ce que l'Algérie tombera dans le piège de la France?
Mais je pense au contraire que les dossiers militaires et ceux du gaz sont centraux dans cette visite. Une fois de plus, Macron ment aussi bien aux Algériens qu'aux Français lorsqu'il prend des prétextes pour cette visite. La France a été mise dehors du Mali. Elle est la victime de l'hostilité des populations au Burkina Faso ou au Niger africaine. Et donc, les Français sont tentés par suppléer par des positions en Algérie leur perte d'influence militaire. La question de l'énergie, c'est-à-dire de la fourniture du gaz, au moment où on annonce des pénuries d'électricité et de gaz et où la population française va subir de plein fouet la paupérisation due à la guerre américaine en Ukraine, évidemment, elle est essentielle pour Macron. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, que les Algériens font une erreur simplement en acceptant de discuter de ces problèmes. Parce que la position de l'Algérie jusque maintenant, elle était aux côtés de la Russie et du Mali. La Russie est le principal partenaire de l'Algérie dans la lutte pour le contrôle de la Méditerranée occidentale et face au Maroc. Et dès lors, les Algériens n'ont rien à attendre de la France. Le reste, on voit Macron d'ailleurs qui voulait véritablement un accord bilatéral sur les questions historiques ou mémorielles avec l'Algérie. Il ne prendrait pas encore cette position arrogante qui lui a fait notamment déclarer qu'il n'était pas question d'une repentance. Lorsqu'on veut saluer les victimes européennes de la guerre d'Algérie, les harkis et la communauté des pieds noirs qui est réfugiée en France, évidemment, on ne peut pas être de ce côté-là et en même temps vouloir la paix avec les Algériens. Il faut venir sur les plateaux africains pour entendre les panélistes algériens. Ils sont indignés et ils sont figés dans une posture anti-française légitime.
Monsieur Michel, il y a aussi une autre question qui se pose, c'est la normalisation du régime sioniste avec divers pays, les pays du Golfe Persique, mais aussi des pays africains, dont le Maroc. Est-ce que, à travers cette visite, Emmanuel Macron chercherait en quelque sorte aussi de faire rapprocher l'Algérie d'Israël et de prôner la normalisation entre l'Algérie et le régime sioniste?
Écoutez, c'est un dossier marginal maintenant depuis que l'affaire ukrainienne a commencé, mais il est bien certain que Macron est un allié des États-Unis et d'Israël, c'est-à-dire des deux puissances qui ont amené au Maroc et au Sahara espagnol les sionistes. À partir de ce moment-là, il est tout à fait normal qu'un rapprochement de l'Algérie vers la France sera une atténuation des positions anti-sionistes de l'Algérie. C'est pour ça que moi, je ne crois pas à cette possibilité d'accord, tout simplement. Parce que ça irait à l'inverse des positions de l'Algérie depuis de nombreux mois.
Merci pour vos explications. Monsieur Cornu, qu'en pensez-vous des explications de Monsieur Michel? Est-ce qu'à votre avis, cette visite aurait des objectifs au-delà juste des accords bilatéraux et un rapprochement entre les deux pays?
Non, si j'ai bien compris, les propos, les arguments de M. Luc Michel,
oui.
C'est toute la question du Sahel, de l'éviction de la France au Sahel, qui serait discutée, cet affaiblissement de cette position militaire française. Moi, ce que je dis, c'est effectivement une chose très importante, qui a été très grave pour l'image de la France, cette éviction de la France et cette tentative de d'action en justice internationale du Mali, qui n'a évidemment pas abouti, puisque la France, qui ne peut difficilement aboutir, puisque la France a un droit de veto. Mais pour moi, ce que je dis, c'est que les moyens d'arrêter les actions de terroristes, c'est d'arrêter la source, les mafias qui sont à la source de ces tensions aux frontières de plusieurs pays et qui sont en grande partie alimentées par les trafics des carburants entre les pays côtiers, Algérie, Libye, Soudan, et les pays du Sahel où les carburants sont très chers. Donc, quant à l'inflexion d'une politique envers la reconnaissance d'Israël, ça c'était évidemment exclu. Je partage tout à fait les idées de M. Michel. La population algérienne réagirait très fortement, comme d'ailleurs elle a réagi au Maroc, s'il y avait en Algérie des inflexions de la politique. C'est un pays qui s'est créé en tant que pays indépendant après une longue résistance populaire face au colonialisme français. Le peuple algérien, les dirigeants algériens, les intellectuels algériens ont toujours soutenu la lutte de la résistance palestinienne face à l'occupation, face aux guerres, face aux destructions. Le Croissant Rouge algérien a aidé les gens de Gaza après toutes les agressions de l'État israélien. Donc il est exclu que Macron espère une inflexion de la politique algérienne vis-à-vis du problème de la tension israélo-palestinienne vis-à-vis de l'occupation israélienne.
Merci à vous. Monsieur Michel, alors en ce qui concerne cette visite, mais les prochains jours, les mois à venir après cette visite, et compte tenu de ce qui se passe au Sahel, au Mali notamment, à quoi devrait-on s'attendre en ce qui concerne non seulement les relations France-Algérie, mais France-Afrique?
On doit s'attendre à une dégradation de ces relations parce que le schéma général, il est à l'éviction de la France de ses positions africaines. Et ces positions ne sont pas uniquement soutenues par les panafricains sous les colonels de Bamako. C'est également la volonté des Américains. Les Américains veulent américaniser la guerre du Sahel et ils veulent dégager les Français du précaré français pour les recoloniser en mer Rouge et au Mozambique. La France est donc prise entre le marteau et l'enclume. Le marteau, ce sont les panafricains. L'enclume, ce sont les Américains. La dégradation des Français dans toute l'Afrique, elle va s'accentuer, d'autant plus que les Russes qui mènent une guerre hybride avec succès dans toute l'Afrique, et les Iraniens également, ils visent les Français qui sont le ventre mou de l'impérialisme occidental en Afrique. La situation du déclassement français en Afrique va donc s'aggraver.
Et pour vous, M. Cornu, vers où iront les relations non seulement de la France-Algérie, mais de la France-Afrique?
C'est vrai, cette tension au Mali, cette éviction de la France au Mali pourrait s'étendre. Il y a évidemment beaucoup de mouvements contre la France et la coopération française, par exemple en République centrafricaine. Ce n'est pas rose partout encore, ailleurs en Afrique. Mais je pense qu'il faut aussi ajouter les efforts de la Chine, les efforts de la Turquie pour s'implanter économiquement en Afrique et militairement. Donc effectivement, la France perd ce sort de monopole, issu de son longue histoire coloniale. Mais les Algériens aussi savent que les Russes ont fait des erreurs. Je connais bien l'Algérie, je suis allé voir des immeubles faits dans le sud algérien, à Togourt ou à Ouargla, par des compagnies russes, sans aucune isolation, sans aucune protection. Ces immeubles ne mériteraient que d'être détruits. Et en fait, je peux citer ici que c'est une femme algérienne d'origine, une experte, qui a introduit le concept de sobriété dans les rapports du GIEC. Et je crois que l'Algérie devra avoir une politique un peu plus sobre, moins gaspiller l'énergie. Et donc l'expérience européenne, l'expérience de l'Allemagne, de la France, dans la construction de logements mieux adaptés, permettrait de réduire les consommations, même le gaspillage de gaz et d'électricité en Algérie, ainsi qu'en Libye, et permettrait donc à l'Algérie de disposer plus de gaz à l'exportation. C'est un mouvement qui vient d'être annoncé d'ailleurs en Égypte. Je pense qu'en Algérie, ce serait sain aussi, dans l'intérêt de l'Algérie dans l'intérêt de l'Afrique, qu'il y ait des réformes de sa politique énergétique, de sa politique des prix. Voilà, donc c'est un sujet technique, mais je pense qu'il est très important aussi pour l'avenir de l'ensemble de l'Afrique.
Merci. Monsieur Michel, vous avez évoqué un shift power entre la France et les États-Unis, en Afrique, notamment au Sahel et les pays voisins. Mais à votre avis, est-ce que les Africains, je veux dire les Maliens, les Burkinabés, les Algériens, les Marocains et tous les Africains sont prêts à accepter un remplacement de la France par les États-Unis, tout simplement?
Non, ils en sont inconscients. Vous savez que je fais quotidiennement des plateaux de télévision et de radio avec des Africains, en particulier des Maliens, des Burkinabés, etc. Ils sont tout à fait inconscients. Les Africains sont focalisés sur ce qui est devenu la haine de la France-Afrique et de la France. Et ils ne se rendent pas compte que la France aujourd'hui n'est plus le danger, que le danger sont les États-Unis. J'emploie une formule pour le résumer. Je dis que l'ombre de la grande marionnette française dissimule la main du marionnettiste américain. Ils ne se rendent pas compte du danger qui est représenté par les États-Unis et l'OTAN. Et bien entendu, lorsque les Américains qui sont déjà installés au Niger viendront remplacer les Français, ce sera un danger beaucoup plus actuel qu'une France en déclassement. Quant à la question de l'écologie, c'est une des thématiques apportées par Anthony Blinken lors de sa tournée en Afrique. C'est une diversion. Le dossier ukrainien a fait que la question du réchauffement climatique qui est réel est devenue aujourd'hui secondaire. Au contraire, les plans européens pour lutter contre le réchauffement climatique sont invalidés par la participation à la guerre américaine en Ukraine. On est notamment en train de remettre en route les centrales au charbon, les industries polluées, polluantes, pour faire place à la crise constituée face à la Russie, à qui on empêche la Russie de fournir du gaz et du pétrole. Je ne crois donc pas que l'intérêt des Africains aujourd'hui se situe sur ces débats écologistes. Et d'ailleurs, les Africains eux-mêmes n'en parlent absolument pas.
Merci à vous, M. Michel. Comme dernière question, M. Cornu, vous avez évoqué le fait que l'Algérie pourrait prendre des modèles et exemples sur ce qui se passe dans le domaine de l'énergie de la France et des pays européens. Mais à votre avis, avec ce qui se passe en ce moment dans l'Union européenne, les pays européens impliqués indirectement dans l'affaire ukrainienne et ce manque d'énergie qui a poussé les pays européens à frapper à la porte de l'Algérie, du Sénégal et d'autres pays de l'Afrique, est-ce que ces pays sont un bon modèle pour les pays africains?
Disons, je ne dis pas qu'il fasse faire la même chose, mais il faut s'engager, il faut que les pays de l'Afrique du Nord, du Maghreb, se lancent aussi dans ces politiques. La Tunisie a commencé, le Maroc un petit peu aussi, l'Algérie est très en retard sur ce point de vue-là et gaspille beaucoup de son gaz et de son électricité. Il y a des leçons à prendre à partir de nos politiques en Europe du Sud, de l'Algérie, de l'Espagne, sur l'application des énergies renouvelables. La France aussi a des exemples à donner. Et je pense que M. Macron n'a plus un pouvoir absolu en France et le recours à du gaz liquéfié qui viendrait des États-Unis, il est très fortement critiqué en France. Donc, même si pour l'instant des décisions ont été prises en ce sens, il y aura de fortes résistances. Et comme je sais, puisque je suis un expert de l'énergie, on peut économiser beaucoup encore dans notre consommation de pétrole, notamment, puisque les voitures sont encore vides, elles transportent 1,2 personnes, alors qu'elles pourraient emporter 4 ou 5. Donc il y a, s'il y a une crise cet hiver, au moins pour le pétrole, on pourra diminuer très fortement la consommation et ensuite de ça, adapter des comportements et des technologies qui nous feraient encore plus économiser. En Europe et ailleurs, ces énergies fossiles qui sont nocives pour le climat. Je pense qu'à court terme, la guerre d'Ukraine a effectivement envahi les médias, c'est un problème très grave. Les négociations continuent, peut-être plus discrètement. La Turquie a réussi à obtenir un accord sur l'exportation des céréales ukrainiennes et russes aussi. Donc je pense que les négociations continuent pour faire arrêter au plus tôt cette guerre et empêcher effectivement le gaz liquéfié américain d'envahir notre continent alors qu'il est polluant, il est plus cher et qu'il y a des ressources chez les pays voisins de l'Europe, et là l'Iran aussi, d'accord, qui pourrait venir compléter et concurrencer de façon régulée le gaz russe pour établir un meilleur marché concurrentiel sur ce produit assez essentiel encore pour nos économies, mais dont le besoin diminuera au cours des décennies prochaines.
Merci pour vos explications. On était avec Bernard Cornu, politologue depuis Vaucluse, Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Merci à vous, mesdames et messieurs, de nous avoir suivis jusqu'à la fin de ce débat. En vous souhaitant une très bonne journée à toutes et à tous, je vous dis au revoir et à très bientôt.
Au revoir.
Aidés par Biden, la Russie et la Chine s'attaquent au dollar, les BRICS et la Chine. La question de la création d'une monnaie de réserve internationale basée sur un panier de devises de nos pays est en cours d'élaboration, a déclaré Vladimir Poutine en juin lors d'une réunion du groupement des BRICS, composé du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. La Russie et la Chine ont lancé une nouvelle tentative de développement d'une nouvelle monnaie de réserve mondiale. En d'autres termes, ils s'attaquent à nouveau au dollar. Un défi mondial coordonné contre le dollar américain serait la plus grande nouvelle depuis des décennies, écrit Tyler Durden. Durden est stupéfait que personne ne semble se soucier du fait que le plus grand changement sur le terrain de jeu macroéconomique mondial depuis un demi-siècle pourrait être en train de se produire. Retenons le terme « changement ». Il n'y a qu'un seul pays qui peut détrôner le dollar et ce n'est pas une nation BRICS, c'est les États-Unis. Le président Joe Biden est le plus grand allié de la Chine et de la Russie pour dédollariser le monde. Les monnaies des BRICS sont faibles. Le rouble russe, bien qu'il ait montré une force surprenante ces derniers temps, est lié à un pays en déclin à long terme et apparemment irréversible. De plus, la Fédération de Russie, grâce à son agression et à sa barbarie en Ukraine, consolide son rôle de paria. L'Afrique du Sud est un pays en marche arrière. Le Brésil, où un gauchiste est en tête dans les sondages avant l'élection présidentielle d'octobre, n'est pas non plus promis à la gloire économique. L'Inde, certes grande et sans doute promise à la richesse, n'est tout simplement pas prête pour le leadership économique ou financier. Le succès de la monnaie de réserve des BRICS dépend donc du renminbi chinois. Le yuan monnaie du PCC. Nombreux sont ceux qui sont optimistes à propos du « redback », comme certains l'appellent maintenant. David Goldman, par exemple, parle de la sino-formation de la Chine dans le Sud et affirme que l'utilisation du renminbi va augmenter en conséquence. Pékin a vanté l'augmentation de l'utilisation de sa monnaie en mai, lorsque le yuan, comme on appelle la monnaie chinoise de manière informelle, a représenté 2,15% des paiements en devises dans le monde. Selon la Société pour les télécommunications financières interbancaires mondiales, mieux connue sous le nom de SWIFT, cela en fait la cinquième monnaie la plus active au monde. Oui, son utilisation au mois de mai était en hausse. En avril, le chiffre comparable était inférieur à 0,01%. La tendance générale est toutefois négative. Le renminbi a représenté 3,2% des transactions mondiales en janvier, ce qui en fait la quatrième monnaie la plus utilisée. Au cours des périodes précédentes, le yuan était encore plus largement utilisé. Ce qui manque particulièrement à la Chine, c'est l'attribut le plus important pour obtenir le statut de monnaie de réserve, la libre convertibilité en d'autres monnaies. Les dirigeants chinois ont toujours échoué à rendre leur argent librement convertible. Avant la crise financière asiatique de 1997, ils avaient promis de le faire d'ici le début du siècle. En janvier 2011, Yi Gang, alors chef de l'administration d'État d'échange, a promis que la Chine rendrait le renminbi convertible sur le compte de capital, en d'autres termes, permettant le libre rapatriement des capitaux d'investissement dans 5 ans. fin 2015, tout le monde pensait que le cinquième plénum du Parti communiste annoncerait l'abolition de tous les contrôles de capitaux d'ici 2020, date de la fin du 13e plan quinquennal du pays. Le parti n'a cependant pas tenu cette promesse. La Chine n'est pas plus proche de la libre convertibilité aujourd'hui. Il y a eu, au cours des décennies, de petites libéralisations en Chine, mais les avancées ont souvent été formellement annulées ou non mises en œuvre. Pékin, par exemple, en 2015, a arrêté les transferts sortants d'espèces qui étaient autorisés par la loi chinoise, une mesure visant à réduire la fuite des capitaux. La Chine, sous le règne du Parti communiste, ne peut pas autoriser la libre convertibilité. Le modèle économique de Pékin dépend de liquidités bon marché pour les entreprises et les banques d'État, ce qui signifie que la banque centrale déprime fortement les taux d'intérêt sur les dépôts. Si les déposants avaient le choix, ils rechercheraient des rendements plus élevés en dehors de la Chine. Le pays n'a pas pu résister à la ruée vers l'étranger qui en résultait. Un marché obligataire malmené. À l'heure actuelle, les liquidités tentent désespérément de partir. La crise de la dette, Pékin a accumulé une dette d'un montant égal, disons, à 350% du produit intérieur brut, semble devoir entraîner la chute de la Chine. L'Evergrande Group et de nombreux autres grands promoteurs immobiliers ne respectent pas leurs obligations. Les propriétaires de maisons dans tout le pays participent au boycott hypothécaire, refusant de payer les banques pour les prêts consentis pour des appartements. Les fournisseurs des promoteurs immobiliers refusent également de payer les prêts bancaires. Et les banques sont incapables d'honorer les dépôts, si bien que les déposants manifestent dans les rues. En conséquence, les investisseurs étrangers retirent leur argent des marchés obligataires qui sont en train d'imploser. Le mois de juillet a été le 6e mois consécutif où l'argent a quitté les marchés obligataires du pays. Qui veut détenir une monnaie chinoise faible qui se dirige vers le bord de la falaise ? En outre, Xi Jinping, le dirigeant chinois, croit au contrôle absolu de tous les aspects de la société. L'idée d'une libre convertibilité est donc presque certainement anathème pour lui. Ainsi, tant que la Chine n'abandonnera pas complètement son modèle de développement économique et que Xi n'aura pas quitté son poste de dirigeant, le renminbi ne pourra pas détrôner le dollar. L'incapacité de la Chine à rendre sa monnaie largement acceptable signifie que dans la pratique, la monnaie des BRICS ne décollera jamais. Le Yankee à la rescousse. Les Russes et les Chinois veulent s'attaquer au dollar depuis des décennies, mais aujourd'hui, malgré tout, ils voient une réelle opportunité de réussir. Quelles sont les caractéristiques d'une monnaie de réserve mondiale ? Elle doit être stable, elle doit être soutenue par une économie importante et forte, elle doit être librement convertible et elle doit être largement utilisée. Les politiques de Biden sapent ces attributs du dollar. Ces plans de dépenses insensés finiront par affaiblir le dollar et donc par réduire son attrait en tant que réserve de valeur. Ces dépenses sont rendues possibles par l'émission de dettes. La dette nationale américaine atteint aujourd'hui le chiffre stupéfiant de 30,64 trillions de dollars et augmente rapidement. Les investisseurs finiront par tourner le dos à un dollar en difficulté. Personne ne veut garder sa richesse dans une monnaie qui perd constamment de sa valeur. De plus, Biden a déjà poussé l'économie américaine dans 2 trimestres de croissance négative, une récession, et ses politiques semblent conçues pour poursuivre et approfondir le ralentissement. De plus, son imposition de sanctions en dollars à la Russie a sapé l'un des principaux avantages du billet vert. Son acceptation quasi universelle et sa facilité d'utilisation pour les transactions, en conséquence, les Chinois et les Russes essaient de commercer entre eux en renminbi. En outre, les Chinois s'efforcent de faire en sorte que l'Arabie Saoudite accepte le billet vert pour le paiement du dollar. Pendant ce temps, Biden a l'air de vouloir tuer le dollar. À Pékin et à Moscou, on n'en croit pas ses yeux. Un président américain est en train de saper ce que Tucker Carlson appelle à juste titre un intérêt américain fondamental, le maintien du statut du dollar en tant que monnaie de réserve mondiale. Les Américains ne doivent pas rester trop confiants. La seule raison pour laquelle le billet vert est toujours la monnaie de réserve mondiale est qu'il n'y a pas d'alternative pratique. La Chine et la Russie, cependant, sont occupées à essayer de trouver un moyen de la remplacer. C'est pourquoi elles font actuellement pression en faveur d'une monnaie BRICS.